à notre équipe musicale et nos choristes, Adama, qui nous a conduits dans ce beau temps, temps de louange qui dispose nos cœurs pour recevoir son message. Et comme Adama l'a mentionné, toujours une question d'être soumis à l'Esprit pour apporter un message pertinent encore en 2015, 2016, 2017, 2018, au siècle des siècles, parce que nous croyons que le message que le Seigneur nous annonce par sa parole est toujours pertinent. Et pour moi, c'est une joie ce matin de vous apporter ce message, parce que je suis confiant que ce n'est pas moi qui vous le donne, mais que c'est le Seigneur qui le donne à travers moi, et que avec cela, ça pourra et ça sera sûrement une source de bénédiction pour chacun de vous, que ce soit individuellement, peut-être en petits groupes ou en église, et même peut-être en plus grand mouvement à travers la région et à travers le Québec. Alors, vous avez sûrement découvert récemment que c'est commencé. Hein? C'est commencé, vous avez pris votre auto un matin, et puis là, vous vous dirigez vers le premier coin de rue, la première intersection importante là, de votre coin, et puis là, il y avait probablement un pompier ou quelqu'un qui attendait avec une petite chaudière, et puis que là, c'est comme, oups, là, on se met à fouiller dans nos poches, on a-tu du change? Commence les collectes, les levées de fonds pour les causes sociales, les causes humanitaires et le soutien aux démunis, aux pauvres. Et là, on est généreux. On est généreux parce que on sait que c'est important. Et puis, on est tellement sollicité. Tellement. Là c'est comme, il a passé au coin de rue, mais là, on va faire nos commissions. Et puis, deux heures plus tard, on revient, ils sont encore là. Fait que là, on sent comme, hey, je devrais-tu encore redonner? Tu sais, mais là, je leur fais bye-bye, tu sais, parce que c'est comme, peut-être tantôt, je vais repasser, je redonnerai, mais tu sais, à un moment donné, là, il y a comme une pression, hein. Mais c'est normal parce qu'on entend dire que les besoins sont de plus en plus grandissants avec toutes les technologies qu'on a, toutes les ressources qu'on a sur Terre, et puis les façons de faire. Hey, écoutez, on en voit, là, des robots sur Mars. Pas des farces. Un robot, là, sur la planète Mars, on a des images, ça prend même des échantillons, puis là, le petit robot, il analyse l'échantillon, puis on reçoit les résultats. Et puis, finalement, là, on le sait, là, il y a de l'eau sur Mars, là. On est fort. Bien, pas dessus, mais je pense qu'elle est en dessous, en tout cas. Mais il y aurait de l'eau, là. Et puis, là, il y aurait eu de la vie où il va en avoir, etc. Je partirai pas là-dessus, là. Mais, C'est tellement de grands besoins, et pourtant, on regarde ça, on dit, avec toutes nos percées technologiques, toutes les connaissances qu'on a, on n'est pas encore capable de pourvoir facilement, sans avoir tout le temps, peut-être aller dans le fond de ma poche, puis là, de donner. Mais c'est comme ça. C'est la nature de la bête, comme elle est sur la planète. Il y a tellement de drames, et On peut pas éviter de parler de ce qui est arrivé récemment en France. Et on voit, il y a une famille syrienne qui disait, aux caméras, qui disait, on a fui de chez nous en Syrie où il y avait la guerre. On a marché des milliers de kilomètres. On a pris un train. On a pris des autobus. Ils disent, on arrive. On est en France. On est enfin libérés de la guerre. Boum! Ça saute à trois coins de rue. Il dit, la guerre nous suit. Il dit, il n'y a pas nulle part où on va aller. Il dit, où on va être en paix. Il dit, c'est troublant. Et on se demande dans tout ça, quel est notre rôle? Parce qu'il y a tellement d'organisations qui font ce travail-là. On regarde juste à Trois-Rivières, hein, Moisson, Mauricie, La Guignolée, L'Arbre des Oubliés, et tous les organismes paracommunautaires, paragouvernementaux qui en fait, ils disent que tous, ils sont tellement coupés qu'ils ne sont même plus capables de faire leur job. Et là, ils se demandent s'ils ne devraient même pas fermer. Mais il y a toutes sortes de petits organismes qui viennent en aide à soutenir nos besoins parce que le gouvernement et même au niveau du privé sont quand même plus capables. Ils sont plus capables de soutenir la demande. Et là, on se dit, hey, peut-être qu'on aurait un rôle dans ça à jouer ou peut-être pas. C'est un questionnement qu'on s'amène. Et ce matin, je pense que j'aurais à cœur de se sensibiliser face à la cause sociale, parce que peut-être que au niveau de l'Église, c'est quelque chose qui est difficile à arrimer. Souvent, c'est une culture, hein? C'est une culture de vie d'Église qui fait en sorte que lorsqu'on regarde les causes sociales autour, on se dit, ben écoute, peut-être que ça nous appartient pas du tout, ça. Hein? Ils sont tellement bons à le faire que hey, qu'est-ce qu'on irait faire dans ça, nous autres, là? On a une spécialité et on va garder le créneau et peut-être que ça, écoute, on le laisse pour d'autres. Et je me disais aussi que peut-être qu'un titre comme l'Église humanitaire pouvait faire sursauter. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, quand j'en ai parlé, il a dit, aïe, 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 il a dit, tu peux pas dire ça. Il dit, voyons donc, il dit, l'Église n'est pas humanitaire. Mais peut-être qu'on mêle deux termes. On mêle l'Église humanitaire avec l'Église humaniste. Okay? C'est deux choses différentes. Okay? Lorsqu'on parle d'humanitaire, hein, l'humanitaire, c'est d'essayer de travailler à améliorer la condition humaine sur Terre. Okay? Je veux pallier à la souffrance. Je veux éliminer la faim. Je veux enlever la pauvreté. OK? Cause humanitaire. Humaniste, c'est différent. L'humanisme, c'est une philosophie à travers laquelle on dit que les valeurs de l'homme, ce que l'homme pense, hein, ce que l'homme écrit, à ce moment-là, c'est ces valeurs-là qui vont au-dessus de toutes les valeurs. Et moi, c'est à ça que j'adhère. Alors là, on ne peut pas dire l'Église humaniste, là, parce que c'est une contradiction en tant que telle. Hein? Ce serait de mettre les valeurs de l'homme par-dessus les valeurs de Dieu qui nous sont données dans les Saintes Écritures. Donc, ne pas confondre humanitaire avec humaniste. C'est bien important. Alors, soulager la souffrance humaine. Et on pense à ça et on se dit, est-ce que c'est quelque chose d'innovateur? Quand on y réfléchit, on se dit, bon, OK, il y a un message de ce matin, on est-tu en train d'inventer quelque chose? Alors, je vous lis quelques lignes tirées du livre des Actes, et je pense que moi, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, oh là là, c'est vraiment quelque chose qui nous appartient. Et là, je vous lis des extraits qui sont tirés du livre des Actes, chapitre 2 à 6. Okay? Tournez-y pas parce que je vais les donner rapidement pour vous faire un survol de ce qu'on peut y rencontrer. Alors, on y lit. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient la nourriture avec simplicité, avec joie et simplicité de cœur, etc. Et avec grande grâce, une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs, des maisons, les vendaient, les apportaient au prix qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait la distribution à chacun selon ce qu'il avait besoin. Et on mentionne à la fin les veuves qui étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Bon, je m'arrête là et lorsque je prends des passages comme ça, je m'aperçois que même l'Église, dans ses premiers pas, dans la première décennie de l'Église, on y voit dans ça une forme organisée de soutien communautaire. Moi, je pense qu'on n'invente rien et même les ONG de ce monde, les Moissons Mauricie et tout ça, n'ont pas inventé le soutien. L'Église, et là je le regarde dans son contexte historique, où les veuves, les veuves et les orphelins étaient laissés pour leur compte. Et si personne ne les nourrissait, ils étaient abandonnés. Et là, on voit l'Église qui forme, hein, de façon organisée une aide communautaire. Évidemment, je ne veux pas enlever le fait que l'Église faisait son travail d'évangélisation. Mais je regarde dans le concret. Dans le concret, qu'est-ce que l'on faisait? Et on voit que dès le départ, et moi, ça m'a vraiment interpellé parce que je me disais que l'Église faisait à ses tout débuts, hein, ce qu'aujourd'hui, bien des organisations peuvent dire, on est des experts à faire ce travail-là. Alors, ils n'ont rien inventé, c'est quelque chose qui appartenait déjà à une Église que notre Seigneur a fondée il y a 2000 ans. Alors, je pense que ce matin, c'était pour moi quelque chose que je tenais vraiment à revenir sur ce point parce que on a vu, il y a de ça presque un mois, on a commencé une série d'enseignements. Trevor a commencé avec la relation des membres de l'Église individuellement entre eux et Dieu. La connexion verticale qui est essentielle, la sainteté du peuple, connectée, verticale. Adama, pendant deux dimanches, nous a parlé de nos relations horizontales. Alors, un coup que c'est connecté vertical, maintenant, on travaille à l'horizontale envers nos frères et sœurs. Hein? Car c'est à cet amour qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Alors, hein, notre famille. Et maintenant, moi, je vous propose la relation, là, est ni à la verticale, ni à l'horizontale, elle est comme à 45 degrés. C'est comme un tir de canon. Vous savez, les pompiers ou les artilleurs, lorsqu'ils veulent avoir le maximum d'impact, la plus grande portée, c'est à 45 degrés que ça se fait. Si vous allez un petit peu plus, là, oups, la portée diminue, 45 degrés. Alors là, on veut tirer à 45 pour sortir des murs et aller le plus loin possible, rejoindre le plus loin possible autour de l'Église, l'Église physique, l'Église locale. Alors là, on oriente notre tir parce que on est tellement bien connecté à la verticale et on va s'être exercé. Et là, faut être bon à l'horizontale parce que si on n'est pas capable à l'horizontale, là, ça va être difficile de commencer à sortir et d'aider. Il va falloir vraiment s'exercer à bien travailler à l'intérieur, mais à un moment donné, il va falloir tirer à 45 degrés pour rejoindre. Alors, c'est dans cet esprit-là que je veux vous présenter ce matin quelques passages des Écritures et on fait également allusion aux bonnes œuvres et parfois on entend le mot bonnes œuvres et on se dit ouais, mais attends un peu, les bonnes œuvres, il faut faire attention parce que là, faut pas tomber dans le piège de commencer à montrer aux gens que c'est par les bonnes œuvres que l'Église travaille vraiment sa sanctification et que ça devient finalement le piège du salut par les œuvres. C'est pas dans ce sens-là. Et on se demande, on se dit, est-ce que les œuvres sont quelque chose de biblique même? Parce que je l'ai déjà entendu. Hein? Jésus me dit, hey, parle-moi pas des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est pas biblique. Il y a un instant, les bonnes œuvres, c'est pas biblique. Qu'est-ce que Jacques écrit, hein? Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Hein? Moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Et lorsqu'on fouille, écoutez, les Écritures foisonnent d'être interpellés pour les œuvres. Hein? Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Faites du bien et prêtez sans rien espérer, hein, dans Luc 6. Dans Acte 20, hein, c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Dans Romains 12. Galates 6, ne nous lassons pas de faire le bien. Pratiquons le bien envers tous. car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, Éphésiens 2:10. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. 2 Timothée 3:13. Recommandez-leur de faire du bien, d'être riches de bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. 1 Timothée 6:18. Tite à 2 reprises, hein, il dit s'appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. Et il mentionne même d'être zélé pour les bonnes œuvres. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Hébreux 10. Et qui vous le maltraitera? Qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Et ça, ce n'est que pour en mentionner quelques-unes. Quelques-unes. Donc, on voit que faire le bien, et sans attendre quelque chose en retour, c'est quelque chose qui est fondamental dans la vie de l'Église. Et on veut le faire en famille, mais on veut aussi l'exercer à l'extérieur. On disait, moi, ça m'a toujours un petit peu surpris de regarder à quel point des idées peuvent être révolutionnaires. Et on voit que il y a des moments dans l'histoire de l'humanité où des gens sont arrivés avec des pensées et qui ont tout changé. Ça a comme révolutionné la façon d'agir. Et souvent, ça a été pour le mal. On a la pensée, l'hyper-pensée nationaliste de Hitler, la révolution bolchevique sous les œuvres de Karl Marx qui a été instituée par Lénine, etc. Et il y a la pensée communiste Mao. Donc, des choses qui ont comme bouleversé la vie de millions de gens. Et on connaît les résultats de ces régimes qui même sont venus à tuer des millions de gens. Des millions. Et on trouve ces événements-là terribles. Et moi, j'en ai un autre. Et souvent, dans le courant de pensée qu'on a aujourd'hui, on a juste à considérer une pensée qui a été introduite il y a plus de 200 ans par Charles Darwin. Le darwinisme est une pensée qui a transcendé les siècles, malgré toutes les différentes révolutions, et la pensée que l'homme ne vient pas d'un dieu, que l'homme est le résultat d'un hasard fortuit, d'une évolution, de sortir Dieu de l'équation, et que c'était tellement une idée qui était, même je dirais pour la plupart des gens, là, ça devenait comme amener une solution à bien des questions. Et on était capable à ce moment-là d'enlever le joug de l'Église et le joug de la colère de Dieu qu'on annonce aux gens. Et tout ça a amené une révolution de pensée qu'on retrouve même encore aujourd'hui. Et ça en cause des millions de morts. Des gens qui vont mourir sans la pensée de Christ, sans connaître vraiment qui est le Créateur, qui est le Dieu qui voit à leur bien chaque jour. Donc, des idées, il y en a plein. Et moi, je me disais, quel genre d'idées on pourrait avoir pour révolutionner notre quartier, révolutionner notre ville. Et je me disais, bon, regarde, peut-être que c'est pas une révolution, mais c'est d'avoir une influence, d'avoir une forme d'influence qui est irrésistible. Et je pense que c'est important pour nous de regarder comment le Seigneur lui a eu une influence qui était irrésistible. Il a donné à ses disciples des enseignements, des paroles à travers lesquelles il y avait une influence et un impact. Il a commencé par démontrer. Il a démontré en faisant la multiplication des pains et des poissons. Il a même commandé d'aller de par toutes les nations et de faire des disciples. Il a même promis. Il a promis que la mort n'aura pas la victoire contre son Église. Et moi, je trouve ça une belle promesse. C'est une belle promesse dans le sens que l'Église fait son travail et en même temps, Dieu dit, regarde, moi je fais un travail et la mort ne pourra pas vous toucher. C'est comme s'il bloquait là, un ennemi meurtrier de venir empêcher le travail que l'Église peut faire chaque jour. Et ça, je pense que c'est important de le réaliser, de savoir que Dieu il est en action avec nous tout le temps. Jésus avait un discours d'influence irrésistible. Dans son tout premier sermon, il élabore une thématique centrale qui trace la voie des futurs croyants en disant « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde » dans Matthieu 5. Hein, c'est-à-dire que vous allez avoir une influence contagieuse. Si vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière, vous allez avoir une influence. Ça ne peut pas faire autrement. Gare à nous si on n'en a pas. Hein, si le sel n'a plus sa saveur, qu'est-ce qu'il va lui donner? Il va être jeté, hein? Jeté au dehors et foulé aux pieds. Gare à nous. Et peut-être que je vais vous surprendre en disant que l'Église n'existe pas pour l'amour de l'Église, dans le sens que l'Église n'est pas là pour servir son propre intérêt. L'Église existe dans l'intérêt du monde, pas pour l'intérêt du monde, mais dans l'intérêt du monde. Ils ont intérêt à connaître le message de l'Évangile. Ils ont intérêt à connaître l'amour que Dieu a pour sa créature et à nous, de transmettre, à nous d'être une courroie de transmission. Mais on est tellement concentré sur nos besoins, puis c'est vrai, il y en a beaucoup de besoins. Parce que, évidemment, lorsque on amène des gens à l'Église, on veut pallier à des besoins spirituels, et il y a des besoins physiques aussi. Mais on est occupé. Hein? La relation horizontale, elle nous tient occupés. Et les besoins, ce qui arrive, c'est que souvent les besoins deviennent à un moment donné des exigences. Et ça devient presque à un moment donné une obligation. Et là, on rentre dans une spirale. On est tellement occupé, là. On crée des comités puis des programmes pour pallier à nos besoins internes. Et puis là, on est dans cette spirale-là, là, de veiller à nous autres, là. Et puis on est comme une étoile qui implose. Vous savez ça, dans la cosmologie, les étoiles qui implosent, ça fait un trou noir. Il n'y a plus de lumière qui sort. Ça reste en dedans. Et on veut pas devenir un trou noir. Et bien des églises ont réalisé ça, et c'est pas quelque chose de nouveau. Et des églises ont dit, on veut pas tomber dans ce piège-là. On veut, en même temps que l'on s'occupe de nos frères et sœurs, on veut rayonner. On veut rayonner à l'extérieur et amener dans l'intérêt du monde, dans l'intérêt de leur salut, les amener à Christ. Donc, soyons proactifs. Et s'il faut, bien, réagissons. Si on n'a pas été proactifs, réagissons maintenant. On va avoir une belle opportunité avec un nouveau bâtiment. Et je pense qu'il y aura bien des idées qui vont survenir et je pense que déjà, moi je parle à plusieurs, il y en a qui viennent me voir et disent « Hey, on pourrait faire ça! Hey, on pourrait faire ça! » Et là, je vois que c'est non seulement des idées qui peuvent aider à l'interne, mais ce sont des initiatives qui vont déborder. Ça va sortir des murs et que les gens voient vraiment, qu'ils découvrent vraiment qui nous sommes. Et quand, à ce moment-là, ils pourront avoir l'occasion de dire « Hey, ces gens-là ont vraiment de l'amour les uns pour les autres. » Et c'est justement ça, c'est d'être attiré par ça. Mais si on reste en dedans, les gens passent dehors, ils ne le voient pas, ben, ils vont voir un beau bâtiment. Ils vont dire « Hey, ils ont bien bâti ça. Ben, » ils vont rentrer chez eux, puis ça n'aura pas plus d'influence. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Soyons le sel de la terre et la lumière du monde. Et ce qui m'amène à mon verset, parce que on est tellement, comme je mentionnais, on a des combats à l'interne, il y a tellement d'influences et on en parle souvent. Je parlais tantôt du darwinisme, la pensée scientifique et toutes sortes de fausses doctrines et on est en mode action. Et je crois que l'Église, et même je parle notre assemblée, je pense qu'on a vraiment fait un travail extraordinaire d'être des enseignants bien fondés pour que les membres et même nos visiteurs saisissent des vérités tellement importantes, contraires à la pensée du monde. Et on voit dans le texte de 1 Jean, je vais vous le lire, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Et à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Remarquez, hein? Rendons témoignage, annonçons. On est dans l'action et on le fait. Et ne nous lassons pas de le faire. Et j'aurais pu ajouter l'autre verset aussi, parce que c'est important, hein? Nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Donc, on est dans l'action. Mais là, je voulais regarder les versets autrement. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans ces trois versets-là, il y a un aspect, il y a un mode passif qui est très important. Et c'est là que j'ai saisi que c'était important, si ça a été important pour Jean qui l'écrit, ça doit être important pour nous comme Église qu'on ait le même impact envers ceux qui nous entourent. J'ai juste mis en couleurs différentes les mots qui ont vraiment un impact. Voyez-vous, nous avons entendu, nous avons vu de nos yeux, nous avons contemplé, nos mains ont touché, vie manifestée, nous avons vu, manifesté. Vu et entendu. Ça fait appel à tout l'aspect sensoriel du corps. C'est quelque chose. Jésus a été quelqu'un, un phénomène palpable. Ce n'est pas juste de la théorie. Ils ont vu aller l'homme. Ils l'ont entendu. Ils l'ont touché. C'est tactile, c'est sensoriel. Et pour moi, je me disais, est-ce que l'Église ne devrait pas être quelque chose de tactile et sensoriel pour les gens autour? Que, oui, ils entendent, mais qu'ils puissent également goûter, contempler, manifester, qui voient que c'est quelque chose de réel. Écoutez, oui, c'est vrai. C'est vrai que Dieu peut aller toucher quelqu'un. Et on a souvent des témoignages comme ça, des gens qui passent à travers des moments très difficiles. Et c'est peut-être par le témoignage d'une personne ou un traité qui a été remis, un Nouveau Testament, et la parole les a saisis, ils sont transformés. Mais il reste que, pour la vaste majorité du monde, hein, s'ils ne voient pas qu'est-ce qui se passe, ils ne créeront pas. On veut le voir. Montre-moi ça. Ah ouais, vous en avez de l'amour, vous autres? Montre-moi donc ça. Montre-moi-le. Et puis ça, c'est pas évident. Parce qu'on est occupé. On a tellement à faire entre nous que c'est difficile. C'est difficile de prendre le temps et l'énergie de sortir. Alors, est-ce qu'on veut être une église qui va avoir un impact sensoriel, hein, que les gens vraiment puissent dire, là, hey, eux autres, là, c'est, ils font une différence. Alors moi, il y avait de quoi, j'avais tellement peur à un moment donné quand il y a eu l'incendie. Je me disais, ah, j'ai dit, si les médias font le tour du quartier puis ils vont leur demander, tu sais, ils font un genre de vox pop là, sur le perron des gens et puis ils disent, hey, votre église à côté de vous a brûlé, qu'est-ce que, tu sais, ça vous dérange-tu? Hey, moi, j'avais pas, ils l'ont pas fait. J'avais toujours crainte de voir qu'est-ce que les gens vont répondre. Tu sais, vont-ils dire, ah ouais, écoute, c'est tellement de valeur. C'est tellement de valeur que ça, hey, on a hâte qu'ils rebâtissent. Il y avait le voisin en arrière qui avait hâte qu'on rebâtisse, mais c'était pour d'autres raisons. Mais c'est quelque chose qui m'interpellait. Je me disais, vraiment, est-ce que les gens dans le quartier sont attristés? Oui, tu sais, c'est sûr, c'est de valeur. Ils ont perdu leur bâtiment. Puis, tu sais, c'est une valeur qui est partie. Puis là, ben bon. Mais il reste que, regarde, il y a bien du monde qui passe au feu. Puis, ils rebâtissent. Puis tout ça. Mais est-ce que le fait que là, l'Église n'est plus là, en action, dans le quartier, fait crée un vide? Tu sais, c'est comme, hey, c'est-tu plate qu'ils soient partis, eux autres? Mais j'aimerais ça entendre bien des gens autour dire, hey, on a assez hâte que vous reveniez, là. On a tellement hâte. On a tellement de besoins et c'est tellement bien de vous avoir. Alors, une église qui fait la différence, qui est contagieuse, qui a une influence qui est irrésistible pour l'entourage. Et on peut se donner toutes sortes de moyens, hein, des idées, on peut en avoir. Et on a toutes sortes d'initiatives qui ont existé dans le passé. C'est rien de nouveau. On a eu un service de vêtements pendant plusieurs années. Ginette et son équipe qui amassaient du matériel. Et là, le sous-sol était plein. Et puis là, des gens du quartier venaient, puis ils prenaient des choses. Et puis là, c'était plaisant de voir qu'on pouvait soulager des gens d'un besoin matériel. Et il y a toutes sortes d'autres façons d'aider. Et on voit même aujourd'hui qu'on peut le faire à travers des boîtes de Noël qu'on va envoyer à l'étranger. Les enfants à l'école du dimanche, et vous avez participé financièrement à amasser là, des jouets, des besoins essentiels qu'on a pu mettre dans une toute petite boîte et qui va être envoyé loin, loin, loin. Et quelqu'un va recevoir ça. Qui fait du bien. Et il y a toutes sortes de besoins futurs qui s'annoncent. On a entendu parler beaucoup des familles, des personnes de la Syrie qui arrivent au Canada avant le 1er de l'an, apparemment. Et là, il y a tellement de besoins. Il y en a beaucoup qui sont déjà ici, qui sont arrivés comme immigrants, qui ont besoin maintenant. Mais là, on entend juste parler de ceux qui restent comme si c'était les premiers qui arrivaient. Il y en a qui ça fait déjà des années et qui ont de grands besoins. Et là, tout le monde, là, c'est très politique en passant. Hein, tu sais, les gens se garochent, puis oui, on va les aider. Nous autres, on va les loger, on va les mettre là. La lune de miel va durer, hein, Ivan, 5-6 mois. Quand les médias vont se tasser, les grandes organisations qui aident, ils vont se tasser. Et là, va rester, qui va les aider? Et le filet social, là, les mailles là, sont grosses. Là. Ça passe à travers. Là, et c'est beaucoup de dommages que ça cause autour de nous, malheureusement. Et là, on se dit, est-ce qu'on a un rôle dans ça? Est-ce qu'on pourrait participer à une forme de soutien? Et plusieurs, il y en a qui sont au courant. Si vous êtes relié avec les nouvelles du Centre d'aide aux personnes en difficulté, le CAPED, qui a un projet de jumelage avec le SANA. Donc, c'est une opportunité de pouvoir participer à aider, soulager. Des fois, c'est juste une petite visite, une heure, une demi-heure, d'aller voir les gens et puis de leur montrer quelques petits secrets de la culture québécoise, de leur montrer comment faire du sucre à crème, les amener à cabane à sucre, etc. Donc, c'est des choses comme ça. Maintenant, je me disais, pour le quartier autour, est-ce que peut-être on devrait regarder à comment on pourrait établir des contacts. Et moi, je vous en propose un. Et c'est adopter une rue. Adopter une rue, qui va être pour vous votre champ de mission. Alors, vous considérez cela, une rue dans le rayon de notre bâtiment, quelques kilomètres, et là, vous considérez adopter une rue. Priez premièrement pour ce besoin-là, dire, est-ce que je vais participer à ça? Est-ce que le Seigneur va vous mettre à cœur d'avoir une rue qui vous appartient? Ça, c'est ma rue. OK? C'est ma rue. Je prie pour cette rue-là. Et là, même priez pour que le Seigneur vous en montre une. Prenez votre auto à un moment donné ou votre vélo, mais là, on a serré nos vélos. Mais prenez votre auto, faites le tour du quartier. Là, Seigneur, montre-moi une rue. J'ai à cœur, montre-moi une rue. Et puis, à un moment donné, peut-être qu'il y en a une, là, ça va être comme, ça va être ici. Là, vous allez aller voir Robert. Hey, Robert, j'ai ma rue. Robert n'est pas au courant, là, mais là, je le mets au courant. Et Robert, il va cocher les rues. Là, vous allez dire, c'est une rue. Non, est déjà pris. Ah, ben celle-là, non, est déjà pris. C'est ça que, moi, c'est ça, j'espère, Robert va dire, hey, écoute, il ne reste plus de rue. Et là, vous allez prier pour cette rue-là. Et puis, vous allez commencer par marcher. Vous allez marcher la rue. Et puis, prier pour chacune des maisons. De dire, Seigneur, il y a des gens qui t'appartiennent dans cette rue-là et je veux que tu me les montres. Marchez la rue, priez. Et puis, vous savez qu'est-ce qui va arriver? Là, vous allez marcher dans la rue, là, vous êtes un étrange. Les gens vont voir passer. Oh, c'est qui ça? Je ne connais pas. Puis là, peut-être la semaine d'après ou deux semaines plus tard, dire, encore lui? Voyons, je suis dans le bout. C'est intriguant. C'est intriguant, le monde qui passe dans nos rues. On les reconnaît. Et puis là, à un moment donné, il y a un comité qui s'appelle le comité d'évangélisation qui va monter sur pied une activité. Et là, à ce moment-là, on va même monter les petites invitations. Et puis là, on va dire, « Hey, vous êtes tous ceux qui ont adopté une rue? Hey, c'est moi. On va vous donner un petit pamphlet. Va distribuer ça dans ta rue. » Alors, vous pourrez le faire, juste le déposer aux portes. Si vous avez à cœur, vous pouvez cogner. « Bonjour, je suis un tel de l'Assemblée chrétienne. On vous invite pour l'activité. Ça nous ferait plaisir de vous voir. » Pas plus que ça. Ah ben oui, habitez-vous dans le coin, parce que ça fait 3-4 fois que je vous vois passer, là. Commencez à créer. Ah ben là, tu sais, je vous ai dit, non, mais c'est parce que, tu sais, on est l'Église, mais on a à cœur les gens du coin, puis si ça vous intéresse, ça, là, vous commencez à créer des liens. À l'été, les gens vont être sur le perron, là, ils vont vous voir passer, là. Vous allez pouvoir les saluer, puis... Il y a plusieurs églises qui ont fait ça, et ça a été du tonnerre. C'est vraiment une formule qui fonctionne. Il n'y a pas d'église, moi, là, de ceux qui l'ont expérimenté, il n'y a pas d'église qui ont dit non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est exportable n'importe où. Alors, c'est premièrement de prier, voir si le Seigneur vous met à cœur, et ensuite prier pour la rue. Et là, on va vous servir les opportunités d'aller inviter. Et ça va être, des fois, ça peut être 2 activités par année, Noël, Pâques, une activité d'été de quartier. Et puis peut-être vous allez avoir à cœur, à la table des traités, vous dites, lui, il est tellement beau pour Noël, je vais aller le passer dans ma rue. L'idée là-dedans, c'est la régularité. C'est la constance du jardinier. Tous ceux qui sont bons en jardinage vont vous dire, le secret, là, oui, l'engrais, c'est important, mais la constance. Être constant dans le jardin. La rue va être votre jardin et vous y allez. Et vous le faites naturellement, hein? C'est comme... Faut peut-être éviter certains clichés, là. Vous allez sur la rue, là, c'est comme, oh, ils me veulent quelque chose. Non, bien, vous le faites naturellement. C'est quelque chose qui, tranquillement, pas vite, vous allez établir des liens avec 1, 2, 3 personnes dans la rue. Peut-être même rien qu'une. Et ça sera celle-là que le Seigneur va vous amener. Je termine avec ceci. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La lumière, hein? La lumière qu'on va utiliser, c'est la lumière que Christ a utilisée pour me sauver, me transformer. C'est cette lumière-là. Que je me sers. Ainsi, hein, que votre lumière luise ainsi. Ainsi, ça, c'est les moyens. De cette façon-là ou de cette façon-là. Sans agresser, sans crier aux gens, sans leur faire peur. Ainsi. Ainsi, devant les hommes, pas juste les frères et sœurs, les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Comme je pensais tantôt, le tactile, qu'ils puissent ressentir, qu'ils puissent le toucher, qu'ils puissent les expérimenter. Et regardez la promesse. Il a fallu que je le relis plusieurs fois à un moment donné là, pour allumer et dire « Wow, 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 wow! Hey, c'est toute une promesse, ça! Regardez ça! » Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et le résultat, et qu'ils, c'est les hommes, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ils vont tellement être gâtés, là, que la promesse, là, c'est qu'ils n'auront comme pas le choix. Ils vont dire, « Hey, ça vient, là, ça ne peut pas venir des hommes. Les hommes, ils sont, ça n'a pas d'allure. Il n'y a personne qui nous aide, mais eux autres, ils nous aident. Il faut que ça vienne de Dieu, cette affaire-là. » C'est une manière de le dire. Mais la promesse est que, à force de goûter à cet amour-là, Christ dit, « Regardez bien, ils vont être tellement secoués par ça qu'ils vont glorifier. Ils vont glorifier Dieu. » Alors, moi, je veux m'attacher à cette promesse-là ce matin et être encouragé d'avoir justement un travail qui, non seulement est vertical, horizontal, mais qui va sortir. On va y revenir. Dans les semaines, probablement en 2016. On va continuer cet aspect-là, l'aspect communautaire. J'aimais mieux dire humanitaire que communautaire, parce que le mot humanitaire a plus cet impact-là au niveau du soulagement des différents besoins, d'améliorer les conditions de vie d'une personne pour que vraiment ils goûtent à cet amour-là qu'on a pour eux. On doit l'avoir. Et je pense qu'on a vraiment à réaliser que les faiblesses qu'on a, c'est pas parce qu'on n'aurait peut-être pas un bâtiment ou on n'a peut-être pas les bons traités à distribuer ou on n'a peut-être pas les bons équipements. C'est pas ça. Le vrai problème, c'est nous autres. Le problème, il est dans notre cœur. Parce que la recette, c'est qu'il faut vraiment les aimer. Et si on les aime, même si on n'a pas de bâtiment, là, on pourrait le faire en restant ici, là. On pourrait le faire même si je n'ai pas de traité à distribuer. Si on les aime, on va aller au-devant. Et ces gens-là seront interpellés par cet amour. Un amour inconditionnel. Ça me rappelle toujours l'annonce quand je vois, comment s'appelle le chanteur qui fait le show Le Refuge, là? Dan Bigra, le gars à camisole, là. Il y a une annonce, là, c'est Saint-Hubert, tu sais, qui font, les artistes font des annonces pour Saint-Hubert, et puis là, ils disent qu'ils remettent leur cachet à la fondation. Et puis là, on voit ce mendiant qui est assis, et puis là, poum, il y a une boîte de Saint-Hubert qui est déposée à ses pieds. Puis, tu sais, il y a des églises qui font ça, hein, qui se promènent et qui vont remettre de la nourriture aux itinérants, aux mendiants. Et là, donne la boîte, on s'en va. Tu sais, on voit même pas la personne qui donne. On voit juste un pied, je pense, puis la main. Pom! La boîte tombe à terre, puis il s'en va. Hey, là, il prend ça, là. Avez-vous faim? Prends la boîte. C'est donner. Donner un amour inconditionnel. Parce que il faut bien harmoniser humanitaire et évangélisation. Tu sais, nous autres, d'un fond, on a peut-être la tendance d'arriver avec la boîte de Ticoque, là, puis là, de dire... Tu sais, on arrive avec la boîte, mais tu sais que Dieu t'aime, hein? Dieu, il t'aime. Tu sais, puis, bon, mais là, je vais te donner ça, puis, écoute, ça serait important que tu considères Dieu, hein? Je vais te donner, là. Alors, tu sais, et là, à un moment donné, tu sais, on arrive pour lui donner la boîte, là. Merci, on dit merci à Jésus. Je ne l'ai pas entendu. J'aimerais ça l'entendre. OK, là, je te donne, OK? Faut un amour inconditionnel, là. C'est, on donne. La promesse. La promesse, donnez. Dieu dit, là, donnez, vous allez voir. C'est comme si Jésus, là, c'est comme si Jésus avait dit, moi, je m'en vais me donner, là. Là, il est au jardin, là, avec ses disciples, là, il dit, c'est parce que là, moi, je m'en vais là. Mais c'est pas, j'aimerais ça, les gars, que vous me donniez une garantie. Qu'avant d'aller là, vous allez me dire, écoute, c'est pas moi, dire, wow, on te promet, là, que si tu y vas, il n'y a pas de problème, tu vas voir, on va derrière toi, puis on va te partir ça, l'affaire après. Tu sais, là, non, il n'a pas demandé ça. Il s'est donné librement, sans condition, et on doit se donner. On doit se donner à notre entourage sans condition. C'est tout notre défi, hein? Je me parle beaucoup à moi-même le matin, mais je pense que comme Église, là, on travaille ensemble, ça peut être vraiment encourageant. Alors, on va prier et puis on va demander au Seigneur de nous diriger dans tous ces beaux défis-là qui nous attendent. Seigneur notre Dieu, on voit que les besoins sont tellement grands. On entend parler de cette crise humanitaire en Europe où des millions de personnes cherchent refuge, fuient la guerre, cherchent la paix et ne la trouvent pas. Seigneur, est-ce qu'ils la trouveront ici à Cap-de-la-Madeleine, Seigneur? Est-ce que ces gens qui arrivent d'ailleurs, est-ce que ces gens du Québec qui souffrent, Seigneur, trouveront une paix qui surpasse toute paix? Seigneur, donne-nous d'être des agents spéciaux de la paix céleste, des agents qui vont transmettre cet amour que tu nous as donné, cet amour qui s'est manifesté en chair et en os, qu'ils ont vu, entendu et touché. Nous avons été touchés par toi, Seigneur, et maintenant, nous voulons être des agents de changement. Seigneur, sois, Seigneur, devant nous, accompagne-nous et touche des cœurs avant même que nous ayons les visités. Que vraiment, Seigneur, une œuvre du Saint-Esprit s'opère dans le quartier, dans notre quartier et au-delà, dans Trois-Rivières, dans le Québec. Mais Seigneur, on te prie ce matin pour les gens de notre quartier, afin que l'Église brille, que cette assemblée soit le sel de la terre et la lumière du monde sur la rue Lupien, et qu'ils y voient, Seigneur, un endroit de paix, un endroit où ils recevront une nourriture éternelle, une nourriture qui sauve. Alors, Seigneur Dieu, accompagne-nous, dirige-nous et donne-nous ta paix pour tous ces temps qui sont troubles. Nous avons besoin de toi et c'est en toi que nous nous confions, jour et nuit, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.